Bienvenue sur Canada Ouvre-toi, le podcast qui vous aide à mieux comprendre le système d'immigration du Canada. Vous avez comme projet de venir au Canada ou vous y êtes déjà et souhaitez y rester? Vous êtes donc au bon endroit. Je suis Laurence Mouilla-Vertueux, consultante réglementée en immigration canadienne et commissaire aux affidavits en Ontario. Mon objectif est de vous mener vers la clé qui vous ouvrira l'une des multitudes portes du Canada. Alors maintenant, plongeons-nous dans l'épisode du jour. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast Canada Ouvre-toi. Alors aujourd'hui, le sujet du jour, je pense, va en intéresser certains car je vais vous expliquer comment travailler au Canada sans permis de travail. Et oui, il y a certaines situations où effectivement vous pouvez vous rendre au Canada sans avoir de permis de travail au préalable. Donc je vais vous expliquer tout ça. Et avant de commencer, et je vais faire ça dorénavant à chaque début d'épisode, c'est juste pour vous informer, c'est un petit disclaimer, que voilà, les renseignements fournis dans ce podcast ne constituent pas et ne visent pas à constituer des conseils juridiques. Au contraire, tous les renseignements, le contenu et les documents disponibles dans les épisodes sont à des fins d'information générale seulement. Donc concrètement, c'est seul votre représenté légal qui peut vous donner l'assurance que les renseignements contenus dans ces épisodes de podcast sont applicables ou appropriés à votre situation particulière. C'est-à-dire que même si moi, je suis consultante réglementée en immigration canadienne et donc j'ai l'autorisation du gouvernement à donner des conseils en immigration, tous les conseils ne s'appliquent pas à tout le monde. Donc voilà, donc vous pouvez écouter les conseils, mais ensuite, si vous voulez vous assurer que ça s'applique à votre situation, dans ce cas-là, vous devez avoir affaire à votre représenté légal. Donc voilà, donc nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet. Je vais reprendre mon système de carte mentale comme je faisais dans la première saison parce que je pense que c'est plus facile pour vous d'imaginer comment le système fonctionne. Donc concrètement au Canada, si vous voulez immigrer, voilà, on met de côté tout ce qui est citoyenneté et réfugié. Et donc, du coup, il y a la résidence. Donc, vous avez deux options. C'est soit vous avez la résidence temporaire, soit vous avez la résidence permanente. Dans la résidence temporaire, vous avez trois options. Vous avez visité le Canada, travaillé au Canada et étudié au Canada. Donc, nous, c'est le travail qui nous intéresse. Et dans travail au Canada, concrètement, il y a deux grosses sortes de programmes. Donc, vous avez le programme des travailleurs étrangers temporaires et le programme de mobilité internationale. Donc, en fait, le programme des travailleurs étrangers temporaires, ça veut dire qu'en fait, les employeurs, ils doivent réussir à prouver en fait qu'en embauchant un travailleur étranger, ça va remédier à la pénurie temporaire de main-d'œuvre et de compétences. Et pour ça, ils doivent obtenir une étude d'impact sur le marché du travail. Et concrètement, en fait, ça permet de vérifier si le besoin d'avoir un travailleur temporaire est bien présent et s'il n'y a aucun Canadien ou résident permanent du Canada qui est disponible pour faire le travail en question. Et ensuite, le deuxième programme, donc le programme de mobilité internationale, ça, en fait, il y a deux voies à l'intérieur. Donc, en fait, c'est que ça permet aux employeurs d'embaucher des travailleurs temporaires sans EIMT, sans étude d'impact sur le marché du travail. Soit parce que voilà, du coup, il y a des avantages concurrentiels sur le plan économique, culturel ou autre, ou soit en fait, il y a des avantages mutuels entre le Canada et d'autres résidents permanents du Canada. Des avantages, qu'est-ce que je raconte ? Pardon. C'est ça, il y a des avantages mutuels pour les Canadiens et les résidents permanents du Canada. Et la deuxième branche, c'est que ça permet à certains étrangers de travailler sans permis de travail. Donc justement, c'est ça qui va nous intéresser. C'est concrètement, en étant étranger, comment on peut travailler sans permis de travail. Donc voilà, donc juste la carte, c'est ça. C'est qu'on va descendre dans la branche de résidence temporaire, d'en travailler au Canada, dans programme de mobilité internationale et comment travailler au Canada sans permis de travail. Donc, la première chose que je voulais vous indiquer aussi, c'est que même si vous faites partie voilà, des catégories de personnes qui peuvent travailler au Canada sans permis de travail, vous devez quand même avoir l'autorisation d'arriver sur le sol canadien. C'est-à-dire que c'est soit vous devez pouvoir arriver au Canada avec un visa de résident temporaire, certains l'appellent le visa de tourisme, ou avec une autorisation de voyage électronique, l'AVE. Donc dans tous les cas, il faut avoir l'un des deux et ensuite pouvoir indiquer une fois arrivé sur le territoire canadien, expliquer votre situation. Normalement, quand vous faites une demande de visa temporaire, une visa de résident temporaire, on vous demande quelle est la raison pour laquelle vous venez. Vous avez la place de faire une sorte de lettre de motivation. Donc là, vous pouvez expliquer votre projet. Mais après, c'est vrai qu'avec l'AVE, on n'a pas vraiment la place d'expliquer ce pourquoi vous venez au Canada dans le sens de votre but de voyage. Donc du coup, ça va être de votre responsabilité d'expliquer tout ça au moment de l'entrée au Canada. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez sortir de l'aéroport ou si vous passez par la route par les États-Unis, d'expliquer à l'agent de l'immigration ce que vous allez faire. Donc, bien sûr, qui dit AVE ou visa de résident temporaire, il faut aussi que vous ayez un passeport ou un titre de voyage en bonne et due forme. Donc, voilà, les bases sont posées. Alors, la première situation où vous pouvez venir travailler au Canada sans permis de travail, c'est si vous êtes considéré comme visiteur commercial. Donc, c'est-à-dire, c'est si vous voulez venir au Canada, par exemple, pour tout ce qui est participer à des réunions, participer à des congrès, des expositions, mais sans, bien sûr, sans vendre de produits au public, hein. C'est vraiment vous assister en tant que participant. Vous pouvez aussi venir, par exemple, si vous devez fournir un service après-vente. Dans le cadre, voilà, d'un contrat que vous avez eu avec une autre entreprise et vous devez juste venir réparer la chose, un de vos produits, ça vous avez le droit, par exemple. Si vous venez aussi, comment on appelle ça? Si vous venez juste superviser, donc superviser l'installation de machines spécialisées, par exemple, voilà, vous avez une compétence spécifique et vous venez juste superviser sans pour autant travailler. Ce genre de choses est autorisé. Si, par exemple, vous venez pour faire de la formation, imaginons que vous travaillez pour une compagnie qui a une branche au Canada et que du coup, il y a des nouveaux employés qui ont besoin de formation sur une compétence spéciale, et ben du coup, vous avez le droit de venir juste pour les former et c'est tout. Mais la branche canadienne n'a pas le droit de vous rémunérer. Vous venez juste pour en tant que formateur et c'est tout. Si par exemple vous faites partie d'un conseil d'administration et que voilà, vous venez parce qu'il y a un vote pour élire le PDG, ce genre de choses, vous avez le droit de venir au Canada pour ça. Ou encore, l'autre situation qui peut se poser, c'est que si vous êtes employé d'une entreprise qui a conclu des contrats avec des entreprises canadiennes, et que voilà, pareil, vous devez faire une visite de convenance, on va dire, vous avez le droit. Mais le plus important, c'est de garder en tête que vous ne devez pas être rémunéré par l'entreprise ou par la succursale canadienne. Vous continuez à être payé par votre entreprise locale. Donc ça, ce genre de choses, c'est autorisé. Pareil, si vous venez faire de la publicité, vous avez le droit. Mais là aussi, j'en parlerai plus tard, il y a des petites exceptions à la règle. Donc voilà pour tout ce qui est visiteurs commerciaux. La deuxième catégorie, c'est les diplomates. Donc tout ce qui est diplomates, les agents consulaires, les représentants et les fonctionnaires accrédités au Canada, du coup, ils ont le droit, voilà, de venir représenter leurs fonctions sans permis de travail. Et cela s'ajoute aussi aux membres de leur famille. Et puis du coup, voilà, il y a quand même un protocole spécifique pour ça. Donc du coup, il doit quand même être accrédité par le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement. Pareil, si il est représentant des Nations Unies. Ben voilà, ce sont le genre de personnes qui ont le droit de venir travailler au Canada sans permis de travail. On sait très bien que voilà, avec ce genre de fonction, on est souvent amené à voyager, à participer à des conférences. Donc du coup, ce genre de règles s'applique s'applique à vous si vous faites partie de cette catégorie-là. Et puis, comme je l'ai expliqué aussi, c'est pareil, c'est-à-dire que les membres de la famille aussi sont touchés par cette règle. Alors, si vous êtes militaire, la troisième catégorie, voilà, c'est si vous êtes militaire et que du coup vous êtes force en visite au Canada, là aussi vous pouvez exercer vos fonctions sur le territoire canadien sans obtenir de permis de travail au préalable. Donc voilà, on sait que militaire, c'est pas tout le monde qui a ce statut-là, mais au moins c'est quand même bon à savoir. Une autre catégorie, ce sont les employés de gouvernement étrangers. Donc là aussi, en fait, le Canada, il a conclu des ententes avec certains pays pour les fonctionnaires qui viennent travailler pour un ministère, pour une ambassade, ce genre de choses. Donc, ils n'ont pas le statut de diplomate, mais du coup, ils sont détachés du pays. Donc, si par exemple, vous venez travailler pour l'ambassade française, mais que vous êtes toujours considéré comme fonctionnaire, selon certains critères, cette loi peut s'appliquer. Pareil, si vous êtes agent de sécurité aérien aussi, ou si vous êtes agent maritime transfrontalier avec les États-Unis, là aussi, vous pouvez venir travailler au Canada sans permis de travail. Une autre catégorie, ce sont pour les étudiants. Donc, écoutez bien, parce que là, je pense que ça peut en toucher plus d'entre vous. Donc, en fait, si vous êtes étudiant et que vous fréquentez un établissement d'enseignement postsecondaire à temps plein, vous pouvez travailler sans permis de travail sur le campus de l'université ou du collège que vous fréquentez, bien sûr, à temps plein. Donc, en fait, cette autorisation, elle sera indiquée de toutes les manières sur votre permis d'études. Et elle sera valable pour la durée de validité du permis d'études. Donc du coup, voilà, c'est comme j'ai dit en termes de critères, c'est qu'il faut étudier à temps plein. Et puis ce qu'on appelle établissement d'enseignement secondaire, c'est par exemple les collèges, les écoles techniques ou les écoles de métiers, les universités. Et puis si vous êtes au Québec, on appelle ça les cégeps. Et puis voilà, le Québec, c'est vrai qu'ils ont des règles particulières, donc il faut au moins étudier pour un minimum de 900 heures. Mais voilà, au moins, vous pouvez savoir que vous pouvez étudier et travailler en même temps sans permis de travail. Mais ce qu'il faut savoir aussi, voilà, donc vous devez étudier à temps plein. Mais après, voilà, le nombre d'heures de travail, n'oubliez pas, est limité. C'est que pendant vos études, c'est 20 heures par semaine. Et puis, pendant les vacances, vous êtes autorisé à travailler à travailler à temps plein. Et puis, dans certaines conditions, vous pouvez aussi être autorisé à travailler hors campus, sans permis de travail. Pareil, à temps partiel jusqu'à 20 heures par semaine pendant une session d'études normale et puis à temps plein pendant les congés prévus au calendrier. Et pareil, ça sera spécifié sur votre permis d'études. Et puis là, c'est vrai que dernièrement, il y avait une politique d'intérêt public qui a été mise en place et qui expire le 30 avril 2024, qui autorisait temporairement les étudiants à travailler. Les étudiants étaient autorisés à travailler à temps plein, même pendant le temps de leurs études. Donc c'est vrai que si vous demandez un permis d'études maintenant, malheureusement, vous ne pourrez pas en bénéficier. Mais sachez voilà, que pendant un temps, c'était possible. Et sachez aussi que du coup, voilà, il y a les règles fixes. Et puis de temps en temps, selon les besoins du Canada, les règles peuvent changer, notamment à travers ce qu'on appelle les politiques d'intérêt public. Alors, on passe à une autre catégorie, ce sont les artistes de spectacle. Alors ça, c'est vrai que c'est une catégorie qui est un peu spéciale et du coup, la ligne, elle est fine entre qui peut travailler avec ou sans permis de travail. Donc c'est vrai que celui-là, je vais passer un peu plus de temps parce que je pense que ça peut en toucher pas mal d'entre vous et il faut être sûr d'être dans les règles. Donc concrètement, le type de personne qui peut entrer sans permis de travail, c'est si par exemple vous êtes invité, si vous êtes artiste et que vous êtes invité dans un groupe de spectacle canadien, ça, vous pouvez. Si vous êtes lutteur dans la WWE ou ce genre d'événement du même genre, par exemple, eh bien, pareil, vous avez le droit d'entrer sans permis de travail. Si vous êtes pilote de spectacle aérien, vous êtes concurrent de rodéo, ce genre de choses. Pareil, des cirques ambulants. Si vous êtes artiste dans des cirques ambulants, des DJ, des artistes ambulants, par exemple, chanteurs de rue, eh bien, vous pouvez venir au Canada sans permis de travail. Donc ça, sachez-le. Et puis voilà, si vous êtes dans l'industrie et que par exemple vous êtes producteur de films et que vous venez faire du repérage ou que vous avez des réunions comme je l'ai spécifié, bon bah là vous rentrerez par exemple plus dans la catégorie visiteurs commerciaux. Ce genre de choses. Et pourquoi je dis en fait que c'est une ligne fine, c'est parce que là je viens de vous expliquer ceux qui peuvent rentrer sans permis de travail, mais par contre si vous êtes acteur, chanteur, mais que vous jouez dans des productions théâtrales canadiennes ou dans des cirques, là, par contre, vous aurez besoin d'un permis de travail et d'une EUMT si applicable. Donc, vous voyez, la ligne, elle est fine. Pareil, si vous êtes engagé dans la réalisation de films, d'émissions de télé, d'émissions de radio, par exemple, vous allez besoin d'avoir d'un permis de travail. Si vous êtes artiste et que votre spectacle est établi au Canada, pareil, permis de travail. Et le rodéo, j'en parlais tout à l'heure. Donc, si vous êtes juste concurrent en rodéo, ça veut dire que vous montez sur les chevaux et puis vous participez à des courses, vous n'avez pas besoin de permis de travail. Mais si vous êtes artiste de rodéo et que vous travaillez dans des spectacles de forains, là, par contre, vous avez besoin d'avoir un permis de travail. Donc, c'est vrai que ça peut être très confus, mais c'est pour ça, voilà. Donc, faites bien attention parce que la ligne, elle est fine quand on est dans le monde du spectacle et il ne faudrait vraiment pas vous retrouver dans l'illégalité en pensant que vous pouvez venir sans, alors que en fait, ce n'est pas le cas. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'en général, si vous venez par exemple pour un spectacle ou ce genre de choses, l'autorisation sur le territoire canadien, il va être à durée limitée du coup. Vous ne pouvez pas vous engager en disant que voilà, le spectacle, il a vita aeternam. Donc en général, il ne faut pas être étonné que du coup sur votre passeport, si vous faites une tournée de 3 mois, et du coup sur votre passeport, on va vous donner une date limite de 3 mois avant de sortir du territoire canadien. Donc, c'est ça que je voulais vous dire par rapport à ça. C'est vrai qu'au niveau du monde du spectacle, je pourrais passer beaucoup plus de temps parce que, comme je vous ai dit, en fonction du type de métier, il y a plusieurs règles qui s'appliquent. Voilà, que vous soyez artiste de cirque, chef d'orchestre, vous venez faire un festival, vous êtes acteur invité ou acteur engagé, ce genre de choses. Donc voilà, au moins c'est juste à savoir. Donc on va passer à la catégorie suivante. Donc c'est si vous êtes athlète et si vous êtes entraîneur et que voilà, vous devez venir participer à une compétition ou toute autre manifestation sportive, et ben du coup vous n'avez pas besoin de permis de travail. Donc ça, c'est soit que vous soyez participant indépendant ou voilà, le membre de votre équipe, comme je vous ai dit, les entraîneurs. Vous venez juste pour la compétition et puis c'est tout. Donc si vous êtes vous êtes pilote de voiture de course, vous venez courir un 400 mètres juste pour cette compétition et ensuite après votre objectif bien sûr n'est pas de rester au Canada et qu'après la compétition vous vous engagez à repartir chez vous. Et comme je vous dis, votre personnel aussi, donc les soigneurs, tout l'équipe médicale, ce genre de choses, bien sûr, est autorisé à venir avec vous. Prochaine catégorie. Alors ça, c'est la catégorie des journalistes. Donc, tout ce qui est correspondant de presse, journaliste, membre des médias. Donc voilà, s'ils travaillent pour des agences de presse ou Internet, eh ben, ils sont autorisés à venir à partir du moment où l'agence pour laquelle ils travaillent n'est pas canadienne. Donc si voilà, vous habitez au Luxembourg et que votre travail vous envoie faire un reportage sur les caribous d'Alberta, et ben du coup vous pouvez venir faire votre reportage et puis repartir tranquillement au Luxembourg. Prochaine catégorie, c'est si vous êtes conférencier. Donc, vous voyez, si jamais vous êtes invité à un sommet et qu'on vous a invité à participer en tant que conférencier à un panel, bah, du coup, vous avez le droit de venir. Pareil, tant que si par exemple, voilà, on vous a loué un hôtel, on vous a fait la publicité, on a payé les frais d'admission, bon, bah, ça, du coup, vous avez le droit. Mais là encore, n'oubliez pas, vous n'avez pas le droit d'être. Rémunéré parce que sinon ça veut dire que vous travaillez pour une entreprise canadienne. D'accord? Et puis c'est quand même un avantage pour le Canada parce que du coup on va vous dire que voilà, la conférence que vous donnez, c'est un service en fait que vous fournissez pour le Canada. Mais ce qu'il faut vraiment aussi prendre en compte quand vous venez en tant que conférencier, c'est que ça ne doit pas durer plus de 5 jours. Voilà, donc si vous venez à un colloque, ça ne doit pas durer plus de 5 jours et puis il faut justifier que vous venez quand même pour un événement particulier. Alors, on va rester dans le thème pour la prochaine catégorie, dans le thème dans tout ce qui est congrès-conférence. Donc, si c'est vous l'organisateur de congrès et que voilà, et votre personnel de soutien administratif aussi. Donc en fait, il faut savoir que voilà, ça va dépendre. Donc si les types d'événements, ce sont des congrès, des réunions, voilà, ou des réunions de motivation, des salons, des expositions professionnelles, ça s'applique pas aux fournisseurs de services techniques, donc c'est-à-dire tout ce qui fournissent des services audiovisuels, d'installation, tout ça. Et par contre, si vous organisez un congrès mais que vous travaillez pour un événement canadien, vous ne serez pas admissible à cette dispense du permis de travail. Et en fait, un événement canadien, c'est-à-dire, quand on dit événement canadien, c'est que c'est une activité organisée par une entreprise située au Canada qui fait activement faire des affaires dans le pays. Donc, c'est-à-dire que c'est pareil. Si c'est un événement qui est organisé par une succursale ou une filiale canadienne d'une organisation qui a son siège à l'étranger, par exemple en France, on considère ça quand même comme un événement canadien. Donc c'est pour ça, faites bien attention par rapport à l'organisation du congrès. Ensuite, on va passer à la prochaine catégorie, c'est le... Oh, comment on appelle ça? Les employés voilà d'ordre religieux. J'appelle employés ou travailleurs, mais c'est pas vraiment, mais c'est par exemple les rabbins, les chefs religieux, voilà, c'est le mot que je cherchais. Donc par exemple, si vous êtes rabbin, vous êtes prêtre, vous êtes moine, et ben dans certains cas, vous pouvez être exempté d'un permis de travail. Donc, pour ce qu'on considère faire partie d'une communauté religieuse, c'est-à-dire que vous avez travaillé, vous avez partagé des croyances et vous allez être ou peut-être vous êtes en mesure d'enseigner ou d'exposer les croyances religieuses. Mais voilà, il faut savoir aussi qu'il y a certains critères d'admissibilité. Donc, c'est-à-dire que si vous venez, c'est soit vous allez offrir un enseignement religieux, soit vous allez faire la promotion d'une foi en particulier, soit vous allez faire progresser les enseignements spirituels d'une foi. Et puis voilà, vous respectez les doctrines et sur lesquelles s'appuient ces enseignements. Et puis, il ne faut pas juste dire que vous êtes employé par un organisme religieux canadien. Ça, ce n'est pas une preuve suffisante. C'est-à-dire que si vous dites que vous êtes la secrétaire d'un prêtre, ça, c'est sûr que ce n'est pas considéré comme... travailler d'ordre religieux. Donc en général, c'est pour ça qu'on a appuyé sur les chefs religieux. Et puis du coup, bah, comme d'habitude, hein, la durée, on va jamais vous donner une autorisation plus longue que votre passeport. Et puis il y a aussi des dispositions spéciales pour votre époux, épouse, conjoint de fait et enfants à charge. Et puis du coup, ce qui vaut aussi prendre en compte, voilà, c'est là, au niveau de la rémunération, parce que comme vous voyez depuis tout à l'heure, je vous parle beaucoup de rémunération, mais en fait, les étrangers qui bénéficient d'un hébergement et de repas gratuits et qui reçoivent une allocation pour leurs frais de subsistance cette fois-ci, dans cette catégorie, elles peuvent tout de même être admissibles à une dispense des frais de traitement d'une demande de permis de travail. Donc, ça, c'était pour les chefs religieux. Maintenant, on va passer à tout ce qui est juge, arbitre, ce genre de choses. Donc, si par exemple, vous êtes juge ou arbitre d'événements sportifs amateurs ou par exemple des concours de danse, ce genre de choses, bah, là, du coup, vous pouvez venir travailler sans contrat de travail. Voilà, le plus souvent, ce sont si ce sont des concours ou des compétitions internationales. Prochaine catégorie, les examinateurs, les évaluateurs, ou si par exemple vous êtes témoin expert et enquêteur, imaginons, il y a eu, comment on appelle ça, un gros accident, et que du coup, on vous a fait venir de l'international pour venir voilà, témoigner en tant qu'expert devant une cour de justice ou un tribunal. Et tout ce qui est examinateur et évaluateur, c'est par exemple si vous dirigez des études et que vous examinez le travail d'étudiants universitaires, donc vous êtes tuteur en fait, notamment pour tout ce qui est thèse et documents, et ben dans ce cas-là, vous pouvez venir sans permis de travail. Donc vous voyez, la liste s'allonge au fur et à mesure. C'est quand même des petites exceptions, mais au final, il y a des chances que vous puissiez rentrer dans ces catégories. Donc, il m'en reste encore quelques-unes à vous en parler. Donc, si on reste toujours dans le domaine des études, il se trouve en fait que les étudiants qui sont inscrits à un programme de courte durée en soins de santé, et ben du coup, pareil, ils n'ont pas besoin de permis de travail, mais par contre, il ne faut pas qu'ils aient déjà obtenu leur doctorat en médecine. Et du coup, c'est tout ce qui est donc soins de santé, on comprend la médecine, y compris les soins dentaires, l'ergothérapie, physiothérapie, les soins infirmiers, la technologie médicale. Et puis voilà, après, il y a d'autres professions de soins pour la santé des humains, mais au moins, sachez ça. Prochaine catégorie, ce sont les inspecteurs de l'aviation civile. Donc, imaginons, il y a un avion qui s'est crashé et qu'on a besoin d'un inspecteur international pour voilà, identifier les boîtes noires. Eh bien, lui aussi, il a le droit de venir. Pareil. Bon, là, je sais qu'on parle beaucoup d'accidents. Mais voilà, tout ce qui est enquêteur ou incident aérien, ils ont le droit de venir. Toujours en train de parler d'avion, les membres d'équipage. Donc, tout ce qui est hostesse de l'air, steward, pilote, que ce soit aussi les membres d'équipage de tout ce qui est transport maritime, transport routier, transport ferroviaire. Sur certaines catégories, elles ont le droit. Par exemple, maritime, c'est si, par exemple, il y a un paquebot de croisière qui fait embarquer des passagers dans un port canadien et puis il en fait débarquer quelques-uns. Bon, bah, il aura quand même besoin d'une licence de cabotage. Mais après, le pilote en lui-même n'a pas besoin d'un permis de travail pour faire ça. Et puis ensuite, pardon, il y a les services d'urgence. Donc, c'est-à-dire que le Canada, en fait, il veut faciliter l'admission des personnes qui viennent au Canada pour fournir des services en situation d'urgence. Donc, par exemple, c'est s'il y a un désastre naturel. Vous savez, là, l'année dernière, il y avait beaucoup d'incendies. Donc voilà, s'il y a des incendies, des inondations, qu'on n'a pas assez de pompiers, par exemple, pour arrêter cette catastrophe, eh ben, du coup, le Canada peut faire venir voilà, des services d'urgence. Et donc, du coup, eh ben, ils n'ont pas besoin de permis de travail pour ça. Et puis, les deux autres catégories qui, je pense, vont aussi vous concerner, c'est que si, par exemple, vous attendez le renouvellement d'un permis de travail. Donc, imaginons votre permis de travail se termine le 10 mars, que vous avez envoyé le renouvellement de votre permis de travail le 25 février. mais qu'au 11 mars, vous n'avez toujours pas reçu de réponse sur le renouvellement de votre permis de travail, et bien du coup, vous avez le droit de continuer à travailler jusqu'à obtenir la réponse finale. Donc certains l'appellent le statut implicite. Mais voilà un peu comment ça se passe. Mais ça, c'est vraiment si vous avez fait votre demande de renouvellement avant l'expiration de votre, permis de travail. Et puis, il ne faut pas sortir du pays pendant ce temps-là. C'est-à-dire que vous devez rester au Canada jusqu'à ce que vous ayez la réponse. Parce que si vous sortez et vous revenez, ben vous pourrez plus travailler. Donc ça, gardez ça en tête. Et puis, l'autre chose aussi, c'est si vous avez un permis de travail post-diplôme, et ben du coup, ça, voilà, ça le plus souvent, ce sont pour les étudiants. En fait, ce permis de travail, il permet aux étudiants qui ont obtenu leur diplôme d'un établissement d'enseignement désigné à pouvoir travailler pendant un certain temps après la fin de leurs études. Et puis, enfin, les dernières catégories où on peut travailler sans permis, ce sont les Indiens inscrits. Voilà, donc tels qu'ils sont définis dans la loi sur les Indiens, bah, du coup, ils sont dispensés de l'obligation de présenter un permis de travail. Et puis, ça va, je le mentionne même si c'est logique, mais du coup, les résidents permanents du Canada ainsi que les Canadiens, bien sûr, n'ont pas besoin de permis de travail. Donc voilà, on est arrivé à la fin de la liste. Donc juste pour récapituler, parce que c'est vrai que ça fait beaucoup d'informations, pour pouvoir travailler au Canada sans permis de travail, vous devez être soit visiteur commercial, représentant de gouvernement étranger ou membre de la famille, personnel militaire, employé de gouvernement étranger, être employé sur ou hors campus, les artistes de spectacle, les athlètes et les membres de leur équipe, tout ce qui est journaliste, membre des médias, conférencier, organisateur de congrès, chef religieux, juge, arbitre, examinateur, évaluateur, étudiant inscrit à un programme de courte durée en soins de santé, inspecteur de l'aviation civile, enquêteur d'accidents et d'incidents aériens, membre d'équipage, que ce soit maritime, routier, aérien, service d'urgence, si vous êtes dans l'attente d'un renouvellement d'un permis de travail, si vous êtes dans la transition vers un permis de travail, et puis, bien sûr, si vous êtes indien inscrit, résident permanent ou citoyen canadien. Donc voilà toute la liste des raisons pour lesquelles vous pouvez travailler sans permis de travail. Et surtout, n'oubliez pas que vous devez quand même obtenir soit un AVE, soit une AVE ou soit un visa de résidence temporaire. Donc voilà, je sais que ça fait beaucoup. J'espère que je ne vous ai pas embrouillé l'esprit. Mais je tenais vraiment voilà, à vous expliquer tout, à vous présenter toutes les catégories, toutes les situations où vous êtes autorisé à venir travailler au Canada sans permis d'études. Donc voilà, ça fait beaucoup, mais en même temps, ça fait pas beaucoup d'exceptions. Donc ça dépend vraiment de votre situation, mais on sait jamais. Ça se trouve, vous faites partie de ça. Et puis, ce qu'il faut savoir, c'est que ne soyez pas étonnés dans ce genre de situation une fois que vous arrivez à l'aéroport, que l'agent d'immigration vous donne une fiche de visiteur. Alors, je vais juste vous donner quelques détails par rapport à ça. C'est que normalement, quand vous arrivez avec un AVE ou un visa de résident temporaire au Canada, vous êtes seulement autorisé à rester 6 mois sur le territoire canadien. Même si votre AVE est valable 5 ans, même si vous avez un visa de résident temporaire qui est valable 10 ans, vous pouvez seulement rester 6 mois à la fois sur le territoire canadien. Ça, c'est la règle de base. Mais comme je le répète à chaque fois, la personne qui a la décision finale, c'est l'agent d'immigration à la frontière. Et du coup, lui, une fois que vous arrivez à la frontière, à l'aéroport ou à une frontière terrestre ou maritime, il a le droit de prolonger ou réduire votre durée de séjour au Canada. C'est-à-dire qu'à l'aéroport, il peut vous mettre un tampon sur votre passeport et vous dire si il est OK pour que vous restiez 6 mois en fonction de la raison pour laquelle vous venez au Canada, ou il a le droit, imaginons comme je vous ai spécifié tout à l'heure, vous venez juste pour une conférence et que le colloque, il dure seulement 6 jours, et bah, du coup, il peut par exemple mettre un tampon sur votre passeport en disant au bout du 8e jour, vous êtes censé reprendre l'avion et retourner chez vous. Donc, c'est ce qu'on appelle une fiche de visiteur. Donc, ne soyez pas étonnés, mais faites très attention. À partir du moment où il y a un tampon sur votre passeport avec une date, vous êtes tenu de la respecter. Sinon, vous devenez illégal. Et bon, là, après, c'est d'autres démarches qui s'en suivent. Donc, regarde, faites bien attention quand vous traversez la frontière. Ça, c'est valable aussi, même si vous vous dites que vous venez en vacances. Hein. C'est valable aussi pour les vacances. À partir du moment où l'agent d'immigration met un tampon et met une date sur votre passeport, vous devez prendre l'avion, votre vol retour à cette date-là. Donc voilà, j'espère que les informations vous auront été utiles, que vous avez pu éplucher et voir si vous correspondiez à l'une des situations. Je voulais aussi vous informer d'une bonne nouvelle. Je reprends l'organisation de mes webinaires. C'est vrai qu'en 2023, j'en avais fait plusieurs. Et là, pour 2024, le premier arrive. Donc du coup, ça va être le mardi 26 mars. Et le sujet, c'est comment immigrer au Canada en famille. Parce que voilà, je sais que certains d'entre vous, vous êtes soit en couple, vous êtes soit en couple avec ou sans enfants, soit vous êtes célibataire avec vos enfants, ou soit voilà, vous êtes tout simplement des parents et des grands-parents et vous avez envie de venir voir votre enfant avec vos petits-enfants et vous vous demandez comment faire pour arriver au Canada. Parce que c'est vrai que ça arrive souvent, voilà, une personne dans le couple, elle réussit à obtenir un permis de travail ou elle a une offre d'emploi et puis elle se dit, bon bah, qu'est-ce qui va arriver au reste de ma famille? Comment ils vont faire pour me rejoindre? Donc, ce sont toutes les réponses que je vais apporter pendant ce webinaire. Donc, je vous conseille vivement de vous inscrire. Je vais mettre le lien d'inscription dans le descriptif de l'épisode. C'est totalement gratuit, je précise. C'est totalement gratuit. Donc, voilà, je vais répondre aussi à vos questions. Donc, c'est une manière pour vous, voilà, d'en savoir plus si le Canada, c'est quelque chose qui tourne dans votre tête et que pour passer à l'action, vous avez besoin d'avoir d'un certain nombre d'informations. Donc, je vous invite vraiment, voilà, j'espère pouvoir vous voir le 26 mars à ce webinaire. Et puis, du coup, d'ici là, je vous souhaite de passer une très belle journée et puis je vous retrouve au prochain épisode. Merci d'avoir écouté le podcast Canada Ouvre-toi. N'hésitez pas à le partager avec vos amis, votre famille, vos collègues ou toute personne intéressée par le Canada. Mon but, c'est vraiment de simplifier au maximum le système d'immigration au Canada et de contribuer à la diversité culturelle de ce pays. Donc, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas non plus à me contacter s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. Je sais qu'il y a tellement de programmes qui existent, tellement de notions qui peuvent être confuses. Donc, si jamais il y a quelque chose qui vous tient à cœur et vous aimeriez avoir des éclaircissements, n'hésitez pas à me contacter. Bonne journée !